Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Une majorité, mais une majorité relative pour le Parti Socialiste et Ouvrier Espagnol de Pedro Sanchez. C'est le résultat des élections législatives anticipées qui ont eu lieu hier en Espagne. Le Premier ministre sortant est donc le mieux placé pour former un gouvernement et avant cela construire une majorité. Mais ce ne sera pas facile parce que les socialistes n'ont pas la majorité à eux seuls. Ils vont donc devoir composer avec un Parlement désormais de plus en plus fracturé. Après des décennies de bipartisme entre plusieurs partis de gauche, de droite et désormais d'extrême droite, sans compter les régionalistes et les séparatistes catalans, Espagne. Et maintenant, c'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. José Roras Alonso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien secrétaire général à Paris du PSOE, le Parti Socialiste et Ouvrier Espagnol de Pedro Sanchez, et Barbara Loyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, co-auteur avec Nassima Baron de l'Espagne en crise, au pluriel, une géopolitique au XXIe siècle, c'est chez Armand Collin. La dernière mandature a été marquée par une période d'instabilité politique et gouvernementale. Ce lundi, diriez-vous que la situation est clarifiée et stabilisée, José Roras Alonso?
Stabilisé, ça on le verra dans les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, il y a un vainqueur clair de ces élections, c'est le Parti Socialiste, effectivement. C'est la première fois qu'il est un vainqueur aussi clair depuis 2011, enfin même depuis 2008, c'est la date de la dernière victoire du PSOE. À l'époque, c'était avec l'ancien Premier ministre Rodríguez Zapatero. On peut constater aujourd'hui une chose, c'est que Pedro Sanchez avait fait le pari de convoquer des élections législatives anticipées en pariant sur le fait que les électeurs retiendraient, en les prenant à témoin finalement, d'une fameuse photo qui a eu lieu pendant une manifestation à Madrid des trois droites, comme on les appelle maintenant en Espagne, c'est-à-dire de la droite du Parti Populaire de l'ancien Premier ministre Rajoy, dont le leader maintenant est Pablo Casado, et du Parti Ciudadanos de Albert Rivera, et surtout, grande nouveauté en Espagne, de l'extrême droite, du Parti Vox d'extrême droite, donc qui est apparu sur la scène politique vraiment en décembre 2018 lors des élections au Parlement d'Andalousie. Et je pense que ce pari est quelque part réussi, même si je pense que les motivations des électeurs sont très complexes et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un sens unique à donner au vote des électeurs de chaque parti.
Barbara Loyer, je vous pose la même question, situation clarifiée et stabilisée?
Clarifiée, je ne sais pas, tout dépend maintenant de ce que va faire Pedro Sanchez, notamment vis-à-vis des séparatistes catalans, et y compris d'ailleurs aussi des nationalistes basques, puisqu'en fait ça a été un des grands enjeux de ces élections et de la campagne électorale. Il s'agit un petit peu de savoir quelle doit être la structuration, on va dire, territoriale de l'Espagne dans un avenir proche. Et ça, Pedro Sanchez l'a pas vraiment clarifié pendant la campagne électorale. Il a beaucoup plus parlé d'économie que d'organisation territoriale, alors que ses opposants ont fait campagne sur le fait que l'enjeu principal de la campagne était celui-là. Soit on votait pour qu'il y ait d'éventuels accords avec ces séparatistes ou ces nationalistes basques et catalans, soit on votait contre un retour de la présence de l'État de manière plus affirmée dans l'ensemble des communautés autonomes. C'était un peu un des enjeux. Et donc on ne sait pas trop ce que fera Pedro Sanchez, compte tenu du fait qu'il a une majorité à constituer ou qu'il va peut-être choisir de gouverner en minorité.
C'est le grand enjeu, cette organisation territoriale, José Roras Alonso. On sait quand même c'est ce qui a secoué politiquement l'Espagne depuis 2-3 ans, depuis le référendum en Catalogne.
C'est certainement un des enjeux politiques de l'Espagne dans les mois et les années à venir. Il y a juste un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que sur les résultats des élections de ce dimanche, il y a quelque chose dont on parle pas toujours, c'est le vote depuis l'étranger. Il y a beaucoup d'Espagnols, moi-même j'ai voté ici à Paris pour ces élections en Espagne, et on attend encore de dépouiller tous les votes venant de l'étranger. Alors sachant que en faisant le compte, parce que tout le monde se met à faire des calculs depuis hier pour savoir est-ce qu'on va arriver à une majorité sans les indépendantistes catalans pour Pedro Sánchez ou pas, il s'avère que justement on en est, si on compte les nationalistes basques, le parti régionaliste de Cantabrie qui a eu un député pour la première fois, bon je rentre pas dans les détails, mais on arrive pile à 175, une majorité de 175 éventuellement pour Pedro Sánchez plutôt possible, on va dire, sans les indépendantistes. Or, il faut une majorité à 176. Donc, c'est pour ça que je souligne le rôle du vote depuis l'étranger, parce que c'est déjà arrivé, ça peut basculer dans un sens ou dans un autre, et là, on est à un député près. Pour revenir à votre question, effectivement, la question territoriale, c'est un des enjeux. Je pense que surtout, ça masque aussi quelque chose qui est plus profond, qui est le résultat de la crise économique depuis 2008-2009. Il y a eu une politique économique libérale, à mon sens, très agressive des gouvernements de Mariano Rajoy depuis 2011 jusqu'en 2018, date à laquelle il a été renversé par une motion de censure, et qui, à mon avis, ont fait très 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 mal à l'Espagne, notamment d'un point de vue social et d'un point de vue de l'emploi des jeunes. Il y a énormément de jeunes qui ont quitté l'Espagne pour aller chercher un travail à l'étranger.
Alors, il va y avoir des discussions pour essayer de trouver une majorité. Hein. Ça, on est déjà en train d'essayer de s'accorder sur les chiffres. Vous le disiez, José Roras Alonso. Ça peut durer combien de temps, ces discussions, Barbara Loyer?
Je pense que personne n'a trop intérêt à ce que ça aille vite, parce qu'il y a des élections à la fin mai. Donc, à battre toutes ces cartes avant les élections de la fin mai, qui sont des élections régionales, municipales et européennes, c'est un risque que personne ne va se précipiter à prendre. Donc, à mon avis, on n'aura pas trop de nouvelles avant le mois de juin.
Ouais. La période électorale, vous le disiez, n'est pas terminée. Il y a encore ces élections européennes et locales. Ça peut influer comment sur le processus de formation du gouvernement? Les gens vont se cacher un petit peu, José Rojas Alonso?
Se cacher, non, pas se cacher à ce point-là, mais il n'empêche que certains partis ont déjà commencé à tirer des leçons de leurs expériences, notamment Podemos, qui commence à dire maintenant, alors qu'avant c'était des grands spécialistes des médias, d'ouvrir toutes les discussions politiques aux médias, les champions autoproclamés de la transparence envers les citoyens, et maintenant déjà ils commencent à mettre de l'eau dans leur vin, puis ils commencent à dire maintenant pour négocier une alliance avec le Parti Socialiste et peut-être former un gouvernement de coalition, bah finalement, on commence à entendre les dirigeants de Podemos dire qu'il faudrait peut-être faire ça un peu plus discrètement, de telle manière que, oui, parce qu'ils ne sont pas en position de force, évidemment. Mais non, ce n'est pas que les gens vont se cacher, c'est qu'il y a malheureusement, en Espagne, il y a un facteur temps dans les institutions qui est très important. C'est-à-dire que les transitions après des élections, quel que soit le niveau, d'ailleurs, au niveau de l'État espagnol comme au niveau des régions, des communautés autonomes, le temps des transitions entre les législatures est quand même très important. Il est, à mon sens, même démesuré. Et là, effectivement, on prévoit que le nouveau Parlement qui a été élu, donc hier, dimanche, sera constitué aux alentours du 20 mai.
21 mai, oui, c'est
donc
ça.
C'est juste avant les élections européennes. Mmh. Donc, de toute façon, inévitablement, on ne pourra pas faire grand-chose avant le 21 mai. Et sachant que les élections européennes, oui, effectivement, c'est déjà le 26 mai, en 5 jours, comme vous le disiez, on ne va pas dévoiler toutes les cartes, de toute façon, mais je pense que matériellement même, c'est un peu difficile parce qu'il faut réunir non seulement une grande coalition, c'est-à-dire qui inclurait le PSOE, Podemos et tous les petits partis hors les indépendantistes catalans. Ça va être de toute façon compliqué à mettre en œuvre. Et comme je vous le disais, il se pourrait qu'au dernier moment, il y a un député qui tombe dans un sens ou dans un autre, en fonction des votes de l'étranger aussi.
Vous avez commencé à le dire l'un et l'autre, avec qui? Parce qu'il y aura quand même un parlement qui sera élu, hein. Il y aura avec un nombre de sièges définis par parti. Avec qui Pedro Sánchez peut-il gouverner, selon vous, Barbara Loyer?
Mais là,
il y a plusieurs possibilités quand même.
Il n'y en a pas tant que ça, vous... Parce qu'il y a, alors c'est vrai qu'il y a ces petits partis là, le parti de régionalistes cantabres, il y a deux députés de canariens, il y a les six députés du parti nationaliste basque, et il y a aussi des partis, des députés nationalistes basques qui sont issus, on va dire, de la fin de l'ETA, qui sont le passage enfin voilà, issu de la fin de l'ETA, on va le dire comme ça. Donc la marge est pas si grande, puisque à part ça, à part tous ces petits partis là, il y a le parti centriste Ciudadanos qui a dit qu'il ne voulait pas négocier avec Pedro Sanchez. Peut-être un jour avec le Parti socialiste, mais pas avec Pedro Sanchez. Donc du coup, je pense qu'en revanche, ils n'ont pas dit qu'ils ne s'abstiendraient pas. Donc ça laisse quand même une marge. Et ils ont quand même pas mal avec ces alliances-là. Et ils peuvent peut-être voter sans réelle majorité, sachant que le Parti socialiste, il est également majoritaire au Sénat. Que Ciudadanos a très peu de sénateurs, 4 sénateurs, du fait d'un enracinement moins ancien, et que le Parti populaire est le deuxième grand allié possible du Parti socialiste au Sénat. Donc il y a des possibilités peut-être d'ouverture vers des négociations sur une réforme de la Constitution, donc de commencer à parler sur des choses de fond qui prennent plus de temps, et dans lequel finalement tout le monde a intérêt à se faire valoir et à faire avancer des propositions, alors que jusque-là, dans le cadre du bipartisme, ni le Parti socialiste ni le Parti populaire ne voyaient d'intérêt à ouvrir la boîte de Pandore de la discussion constitutionnelle.
José Rojas Alonso, pour vous, c'est la discussion évidente, elle est avec Podemos et avec les régionalistes basques et catalans.
Alors c'est ça me paraît
la
maintenant
la plus simple, disons la plus immédiate.
Je ne sais pas si c'est la plus simple, mais en tout cas c'est la plus naturelle. Effectivement, je ne pense pas que Podemos donnera énormément de facilité non plus. Ce sont des gens dont l'expérience de ce qu'on a vu de leur comportement au Parlement et en dehors du Parlement montre que c'est pas des gens faciles. Ils se présentent Ciudadanos et Podemos se sont présentés comme des nouveaux partis, des gens qui veulent révolutionner la politique. On a parfois l'impression qu'ils apprennent la politique à partir de zéro plutôt, et qui finissent par arriver aux mêmes turpitudes, on va dire, que les partis anciens qu'ils dénonçaient jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, Podemos, ça, c'est un peu compliqué parfois de voir où ils veulent aller ou comment ils veulent aller, parce qu'il y a quelques années, au moment où ils sont arrivés au Parlement, alors que Pedro Sanchez parlait avec le roi pour être éventuellement désigné comme candidat au poste de Premier ministre, Pablo Iglesias donnait une conférence de presse en disant « ça y est, j'ai décidé qu'il va être ministre ». Vous voyez, sans même en parler avec le Parti Socialiste, ce qui est quand même un petit peu prétentieux. Donc, c'était pas des gens faciles.
Prématuré, en tout cas.
C'est un petit peu prétentieux, c'est un peu c'est se prendre leur rêve pour des réalités. C'est surtout, le fait est que la situation actuelle, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'on peut difficilement voir vers qui d'autre on peut se tourner le Parti Socialiste, étant donné que Ciudadanos a axé toute sa campagne électorale à harceler, parce que c'est bien ça le mot qu'il faut employer, harceler Pedro Sanchez en mettant en cause son honnêteté et sa partialité par rapport aux indépendantistes catalans.
Pourquoi cette inimitié apparemment personnelle, puisqu'il n'y a apparemment pas grand-chose contre le Parti Socialiste espagnol, on serait prêt à négocier, à condition que ce ne soit pas Pedro Sanchez. Pourquoi il y a eu cette inimitié, Barbara Loyer?
Je pense qu'il faut prendre quand même conscience du fait que ce qui s'est passé en 2016-2017 en Catalogne est quand même très important ou très grave. C'est une déclaration unilatérale d'indépendance qui a eu lieu, et qu'il se trouve que Pedro Sanchez avait dit, lorsque le président de la Generalitat a été nommé le remplaçant de Puigdemont, qui est parti à Waterloo, ce président de la Generalitat a écrit beaucoup de choses racistes, et Pedro Sanchez avait dit que c'était le Le Pen espagnol. Or, il se trouve qu'après la motion de censure, Pedro Sanchez a moins trouvé qu'il n'était pas fréquentable et s'est mis à envisager des négociations bilatérales avec ses nationalistes catalans et séparatistes. Et je pense que c'est toute la question qui a été posée pendant ces quelques mois de législature. C'est est-ce qu'il est possible de faire une politique bilatérale avec des gens qui ont fait une politique, ce que les opposants appellent un coup d'État, et en tout cas cette déclaration unilatérale d'indépendance, est-ce que c'est possible d'avoir une politique bilatérale sans passer par l'ensemble de la société espagnole? Et je pense que c'est ça qui a provoqué une véritable rupture.
Ce sont les séparatistes catalans qui ont conduit à ces législatives anticipées en rejetant le budget présenté par Pedro Sanchez en raison du procès des leurs. La situation n'a pas changé, le procès est toujours en cours. Est-ce que ça peut évoluer, José Roras Alonso? La justice espagnole est tout de même indépendante.
Oui, vous parlez de l'actuelle procédure qui est engagée contre les leaders indépendantistes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on peut pas en 5 minutes résumer l'ensemble de la question catalane, mais il y a quand même quelque chose qui moi me trouble depuis le début. Je pense sincèrement, parce que quand on regarde les faits, on essaye d'avoir un regard objectif et froid sur ce qui s'est passé. Moi, je pense que vraiment sincèrement, les indépendantistes catalans ont menti. Ils ont créé de toutes pièces une légende selon laquelle l'indépendance de la Catalogne était possible, qu'elle était possible rapidement, qu'elle ne poserait pas de graves problèmes économiques et sociaux, et qu'en plus elle recevrait automatiquement l'appui de la communauté internationale. On a vu que tout ça était faux, que personne ne les soutenait, que les milieux économiques, notamment les grandes entreprises catalanes, ne soutenaient absolument pas ce processus d'indépendance, pour une raison simple. Moi, je suis juriste, j'ai une formation de juriste, et la première chose dont ont peur les grandes entreprises, c'est l'insécurité juridique. Or, l'indépendance crée une sorte de voyage vers l'inconnu, donc dont personne ne voulait sérieusement. Mmh. Et je pense que ils ont très sincèrement, l'affaire du référendum du 1er octobre, je crois que ça a été un pari. Et d'ailleurs, dans les déclarations de certaines personnes à ce procès qu'on a beaucoup critiqué, dont on a dit que c'était un procès politique, c'est l'un des procès les plus transparents que j'ai vu de toute ma vie. Mmh. Il est filmé en direct, on peut le voir, on peut assister à toutes les déclarations des témoins, les questions des parties civiles, les questions des avocats, défenseurs des accusés, donc indépendantistes catalans. On n'est pas en train de mettre en cause leurs idées politiques, et ça les juges l'ont dit depuis le début, on est en train de mettre en cause leur intention de violer les règles et la constitution espagnole, et surtout de mettre en danger les gens, parce qu'il y a quand même... Puigdemont a fait le pari de provoquer la violence le 1er octobre.
D'accord, donc ce qu'on entend dans le son de votre voix, José Roras Alonso, c'est que c'est difficile quand même de négocier avec les indépendantistes catalans. Est-ce que l'hypothèse Ciudadanos est envisageable si le reste ne fonctionne pas? C'est-à-dire, si on n'arrive pas à constituer une coalition très large, est-ce qu'une alliance avec Ciudadanos et le Parti Socialiste Espagnol est possible, selon vous, Barbara Loyer?
Je n'en sais rien, parce que...
Parce qu'on ne sait pas si c'est... Alors, ils sont centristes, c'est plutôt la droite modérée, c'est un peu compliqué à présenter.
Au départ, ça a été fondé par des gens qui étaient plutôt à gauche, ils ont beaucoup d'électeurs de gauche, mais ils se sont nommés au départ sociaux-démocrates, et ils se sont finalement renommés libéral-progressistes. Et là, c'est-à-dire progressistes sur toutes les questions de société, avortement, mariage homosexuel, euthanasie, toutes ces choses-là. Et là, ils ont fait campagne vraiment sur un axe de libéralisme économique, en disant que c'était qu'il ne fallait pas gréver, on va dire, les finances de l'Espagne, créer de l'emploi, et que donc avec une politique libérale. Donc ils se disent libéral progressistes, et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut les mettre plutôt centristes. Et du point de vue de l'organisation territoriale de l'Espagne, ils viennent, pour la plupart d'entre eux, au départ de Catalogne. Ils sont tous plus bilingues que la plupart des Catalans. Enfin, je veux dire, en fait, voilà, le système des autonomies, ils sont pour, mais ils pensent qu'il faut que l'État soit à nouveau présent. Donc, si vous voulez, en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses si Pedro Sanchez dure 4 ans. Là, dans l'immédiat, ça me semble très peu probable, parce que ça serait faire exactement l'inverse de ce qui a été dit pendant la campagne. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas exclu que Pedro Sanchez gouverne en minorité pendant au moins un temps, à moins qu'il s'allie avec Podemos.
Merci Barbara Loyer, merci à vous également José Roras Alonso d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Adrien Toureau. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur RFI.fr ainsi que sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio. Vous pouvez participer également au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.